plein 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
1, 2, 1.
11h59, on est un peu en avance. C'est pas grave, Danny. Denis nous chargera pas plus cher.
Bonjour. Est-ce qu'Audrey s'assoit ici?
Oui.
Elle va être sourde à 40.
À vous, ses écouteurs, ça n'a pas de sens. Je pourrais écouter la radio de chez nous. Par le son qui sort de ses écouteurs.
Ça me soulage quand je mets les écouteurs de quelqu'un de beaucoup plus jeune puis que ça me casse les oreilles.
Mais c'est un peu selfish, là. Moi, ça m'inquiète pour elle.
Non, c'est parce que j'ai vu des gens vieillir puis devenir sourds en faisant de la radio. Là, Stéphane Gass, qui a déjà fait de la radio ici, là, il était capable d'avoir le son du stade olympique entre ses deux oreilles. Là. Je veux dire, il faisait du feedback, je sais pas. Là, ses écouteurs étaient tellement forts.
Il passait le micro.
Puis nous autres, ben c'est ça. Chaque job a ses défauts. Nous autres, ben c'est qu'on a des écouteurs sa tête, puis plus tu es habitué, plus tu montes ton son tranquillement. Puis il faut que tu fasses attention à ça, parce qu'un coup sourd, on ne servira plus à grand-chose.
Mais à quel point ça sert de s'écouter si fort que ça?
Mais ça, honnêtement, je trouve que ça met dans une atmosphère là, d'avoir le casque d'écoute. Là.
Ouais.
Mais ce que je trouve difficile, c'est aussi les gauges en studio.
Mais
Parce que c'est soit 0 ou 46. Tu ne coches à rien.
J'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait s'entendre à la radio.
Ouais.
Donc, pourquoi ces gens-là mettent ça dans le prolor?
J'ai l'impression que faut pas que j'aille rien d'autre que notre conversation. Je sais pas comment l'expliquer. Je suis un gars qui est pas capable de se réécouter à radio comme ben du monde.
Est-ce qu'on se tape
c'est terrible. Oh. Je sais pas comment vous faites de nous écouter, mais ben, franchement.
Des fois, pendant le temps des fêtes, il y a des reprises de Denis, puis là, il écoute ça, il se met ça à Radio Galilée.
Il est bien plus confortable.
Il préfère entendre un curé.
J'aime mieux écouter mon show quand je suis pas dedans.
Mais je suis d'accord. Les petites réactions, les rires, les signes. Non, faut pas en parler. On va faire de l'anxiété pour la prochaine fois.
Dans le temps que tu étais Denis de Fucking News Guys, il y a un souvenir qui vient en mémoire de ton animateur du matin qui paniquait parce qu'il y a un ordinateur qui avait un genre de ventilateur, puis l'animateur dans ses oreilles entendait le ventilateur de l'ordinateur puis il paniquait.
C'était
quel ordinateur? C'est l'ordinateur de qui fait du bruit de même? Fallait-tu que ça soit fort les oreilles?
L'enfer, hein?
Mais c'est tannant, un petit bruit là, que t'es pas habitué, genre saugrenu, là. Ça capte ton attention.
Mais on devient capricieux parce qu'on a ça sur les oreilles tout le temps. Puis c'est ça. On est des créatures d'habitude.
Ce que j'aimais, honnêtement, j'ai déjà travaillé dans un studio où il y a une personne de l'équipe qui était séparée.
Ah, ça, c'est terrible. Que des studios de radio soient encore faits de même. Là. Moi,
j'aimais
je trouve ça.
Tellement ça parce que tu peux parler dans le queue en même temps que ça te pratique sur ton attention, mais d'une manière incroyable. Puis
j'ai
en
mal
plus,
compris.
Tu peux caler des
Quand
tu as
dit je travaille avec des gens séparés, je dis mais c'est les gens en radio sont pour la plupart toutes séparées. C'est juste normal.
Ah oui, c'est ça, comme d'habitude.
Pourquoi, Yannick, est-ce que tu veux développer sur la chose?
Je sais pas, on doit pas être endurable.
C'est ça.
Ouais.
Pour vrai, on est tous problématiques à notre manière.
On se lève trop de bonne heure, on arrive trop tard, on n'est pas vivable, on est insécure. Veux-tu et raison, on peut faire la demi-heure là-dessus.
Il y a surtout le fait qu'on a beaucoup de choix.
Hey, on n'est plus dans les années 80, là, arrête ça. Là.
Attends un peu, comment il s'appelle le chanteur des Foo Fighters?
Dave Grohl.
Bon, ben tu vois, là.
On n'est pas Dave Grohl. On se prend pour qui, lui?
Je pense que l'époque des Paul Sarrazin, des Mike Gauthier est loin derrière nous.
Nous autres, c'est dur notre vie. On a tellement de choix en étant comme Dave Grohl.
Il y a une fille dans la boîte qui a dit, ouais, mais là, c'est Yann, c'est Dave Grohl. Hey, t'as peu, là. Gérard, là, qui dit, ouais, mais là, chérie, c'est parce que j'avais trop d'opportunités. J'ai pas eu le choix de faire un enfant à une autre femme. Ça passe pas jamais, là. Que tu sois vendeur de chaussures ou Dave Grohl, il n'y a pas une femme qui va accepter
ça. Je suis désolée, mais le trop de choix, si vous voulez que je fasse un top 5 des pires messages que je peux avoir reçus, mettons, dans la dernière année.
De
là,
nous autres, tu parles?
Trop de... Hier, vous avez été bon. Hier, vous avez été très bon.
On n'est pas si pire.
On ne sait pas vivre.
Ben non, on sait pas
vivre. Vous m'avez fait rire au moins.
Ouais, c'est ça. Ben oui, mais là, t'es seul chez vous, une vieille fille dans ses petoufles avec la bouillotte autour du cou.
Hey, pourquoi t'as une bouillotte autour du cou, hein? C'est quoi cette affaire-là?
C'est que vous haïs.
Elle a une bouillotte autour
vous
du cou.
Vous allez aller brûler en enfer, je vais vous regarder puis je vais taper des mains.
Ouais, c'est ce qu'on avait prévu. Anyway.
C'est juste que j'ai juste essayé de tirer trop fort en pratique au dodgeball hier, puis je veux pas que ça traîne parce que je tiens à la compétitivité de cette ligue-là, puis on est de meilleur en meilleur, puis j'ai pas de bras, je fais ce qu'il faut pour l'entretenir.
Mais si tu tenais tant à la compétitivité de cette équipe-là, tu serais pas là, là.
Excuse-moi, l'année passée, ils ont gagné aucun match, je te rappelle, et hier, on a gagné. Okay. Je veux pas dire que c'est moi.
OK, c'est vous autres l'équipe que l'Université Laval plante 110 à 0. C'est vous autres,
Denis,
ça. OK,
Denis,
je vous replace,
on est l'équipe
là.
La plus surestimée de la Ligue.
C'est eux autres l'équipe qui n'est pas connue, qui joue constamment contre les Harlem Globetrotters.
C'est ça.
OK, hey, travaillons un peu. On est dans le pit stop. Yes. On parle un peu d'actualité. Hier, ben, en fait, mercredi soir, j'ai eu vent. Puis je vais vous le dire de qui ça vient, là, cette information-là, sans nécessairement nommer la personne. C'est dans l'entourage de Pierre Paulus. OK? On me contacte en me disant « Yann, tu sais pas quoi? » Puis là, moi, j'aime ça, les mamans. Fait que là, je dis « qu'est-ce qui s'est passé? » Et on me raconte que Geneviève Guilbeault aurait rencontré soit Pierre Poilievre, ce que je ne crois pas du tout, et ou quelqu'un qui est haut gradé chez les conservateurs fédéraux pour têter une job comme député fédéral, puis en même temps, ben demander une job de ministre. Puis savez-vous quoi? Si Pierre Poilievre l'apprend, je suis un peu d'accord avec Denis hier, c'est sûr et certain que s'il l'apprenait, elle serait ministre, probablement responsable de la capitale nationale.
C'est un gros coup. C'est un gros coup pour les conservateurs au fédéral, je pense.
C'est un très gros coup. Et par la suite, en jasant un peu avec des journalistes sur le beat à l'Assemblée nationale, on me dit « Ouais, ouais, Yann, ça circule là, dans les corridors ici. » Je dis, ouais, mais toi, tu l'as su de qui? Puis ça avait, c'était d'un autre parti fédéral.
OK.
Fait que là, je me suis dit, OK, on va sortir avec ça. Puis on s'en est parlé les trois hier. Moi, je vous en avais parlé mercredi soir. Je vous en ai parlé mardi soir.
Oui.
C'est ça. Donc,
oui.
On s'en est parlé. Puis après
hier
ça,
midi.
Ben, mercredi midi, on s'en est parlé. Puis, tout ça, ça s'est rendu à l'Assemblée nationale. Geneviève Guilbeault qui a dû dire que tout ça, ce n'est pas vrai. Mais écoutez bien ces mots. Je pense qu'elle a choisi ses mots.
J'ai jamais rencontré Pierre Poilievre de ma vie, et non seulement je l'ai jamais rencontré, j'ai même jamais été dans la même pièce que lui, ni même dans le même événement que lui. Ça aurait pu arriver, une chambre de commerce, à un dîner. Jamais je n'ai croisé
Donc,
Pierre Poilievre.
Donc, les rumeurs à l'effet que vous allez au fédéral, c'est pas vrai.
Et c'est absolument faux, mais écoutez, ça va plus loin que ça, là. On me rapporte que des radios à Québec, notamment, choix pour
Donc voilà, c'est ce qui a été dit à l'Assemblée nationale. Elle dit qu'elle n'a jamais rencontré Pierre Poilievre.
T'as kické sa même affaire que moi.
Moi, je la crois.
Ouais.
OK, la crois qu'elle n'a jamais rencontré Pierre Poilievre parce que le chef de parti est toujours protégé. Parce qu'il veut pas dire non, il veut pas dire oui.
Elle a pas dit « j'ai pas rencontré l'entourage de Pierre Poilievre ». On a vu exactement la même chose.
Elle a dit « je me lancerai pas au fédéral, mes enfants sont trop jeunes ». Elle a pas dit « je veux pas me lancer au fédéral ».
Mais elle a des explications qui peuvent tenir la route, mais ça l'a peut-être pas empêché de faire des approches, puis juste de juger la température de l'eau, puis de voir s'il y avait des possibilités à court, moyen ou long terme. Mais c'est intéressant de voir que ça s'est rendu très rapidement à l'Assemblée nationale puis qu'elle a eu à répondre.
C'est pas malsain là, qu'elle regarde si elle peut entrer au fédéral ou autre. C'est souvent une gamique politique qui existe. Ce qui est malsain, c'est que ça commence à tout simplement ne plus être une coalition du côté de la CAQ. Là.
Ouais.
C'est en train de se faire démanteler.
C'est peut-être vrai, c'est peut-être juste une rumeur. Tout ça, c'est peut-être faux, mais c'est pas la première fois que ça a l'air d'un snake in the grass. Là. François Legault a dû la tasser à un moment donné en disant « Là, Geneviève, testez tes appuis à la Coalition Avenir Québec pour devenir la prochaine chef de la Coalition Avenir Québec. C'est peut-être un peu trop tôt. » Je sais pas si c'est François Legault qui a dit ça ou encore Koskinen qui est quand même le chien de garde de la Coalition Avenir Québec, mais on l'a tasser un peu.
Ouais, puis moi, ben franchement, là, pour la prochaine campagne électorale, je serais pas mal plus à l'aise de voir aller la CAQ de Geneviève Guilbeault que de revoir la CAQ de François Legault que je suis plus capable de voir en peinture puis de sentir en odorama. Là. Je veux dire, on est dû pour du neuf. Ça marche ou ça marche pas, puis les gens voteront. Mais François Legault, c'est fini, là.
C'est weird, hein? Son propre ministre des Finances qui s'est fait challenger sur le fait qu'il aurait approché les conservateurs.
Ben oui.
Puis il avait dit, ben c'est sûr que c'est, d'être ministre des Finances au Canada, c'est un rêve.
c'est une drôle de façon de... Ouais.
Et lui aussi, ça serait fait dire non. Là, de ce qu'on comprend, c'est qu'il s'est fait dire non.
Tu penses que c'est le cas?
Ben, dans son cas, à lui, ça, c'est sûr et certain qu'il s'est fait dire non. Sans quoi, il serait parti.
Oui, il aurait jumpé, effectivement. Mais je trouve particulier...
Je veux dire, t'as un parti qui se dit à droite économique qui veut remettre les finances du Canada en ordre. Puis là, il vient de faire un déficit d'11 milliards au provincial.
Il y a une forme de loyauté politique aussi, probablement, de dire, bon, là, tu vois qu'on va gagner nos élections. Tu penses que toi, tu vas perdre les tiennes. Est-ce qu'on t'embarque dans le bateau en tant qu'opportuniste puis qu'on va tasser des gens qui sont là depuis longtemps? longtemps pour te faire une place, comme on a fait à une certaine époque avec Bernard Drainville. Je veux dire, ça se fait couramment en politique. Mais peut-être que Poilievre a juste décidé de pas le faire. S'il a décidé de balayer du revers de la main des candidatures qui sont de qualité, je pense, qui proviennent de la CAQ, ben c'est peut-être pour des raisons puis des questions de loyauté. Il y a ces soldats dans la région de Québec, des gens qui l'ont soutenu même après des départs hésitants, là, on va le dire. Au début, là, Pierre Poilievre, il y avait bien du monde qui n'était pas sûr, particulièrement dans la province de Québec, de son statut en tant que chef. Les lieutenants, ils n'ont pas bougé, ils sont encore là. Puis c'est peut-être normal que ce soit eux autres qui aient préséance sur des gens qui voient la CAQ couler tranquillement puis qui deviennent ce qu'on appelle des opportunistes politiques, ce que personne aime. Là,
moi, j'aime bien, Claude, on change complètement de sujet, les amis, j'aime bien Claude Villeneuve en tant que personne. Je trouve que c'est un individu qui est le fun à jaser,
oui,
il est brillant
beaucoup.
Et tout ça. Comme chef de l'opposition, j'ai l'impression qu'il ne fait pas son travail, bien qu'il travaille extrêmement fort. J'ai pas l'impression qu'il pousse l'administration Marchand à être meilleur.
Puis il a le don de se mettre les pieds dans un plat tout seul aussi. Là. C'est arrivé encore.
Hein?
Est-ce que tu connais le budget de recherche d'un parti de l'opposition, surtout de l'opposition officielle à Québec? Un budget de recherche. Là. Ça, c'est-à-dire qu'on embauche des gens pour faire des recherches sur certains dossiers. Mm-hmm. Puis après ça, ben, une fois que le dossier est monté, on remet ça au chef, on dit voici, vous pourriez challenger la ville pour telle affaire.
Es-tu élevé ou pas élevé?
C'est l'équivalent d'une élection partielle provinciale.
OK.
Mais
ben, c'est un bon budget.
Il y a souvent des coûts
très bon
et
budget.
Des frais à une demande d'accès à l'information s'il y a mm-hmm. plusieurs papiers aussi. Ouais. Puis c'est à coût une couple de dizaines de dollars. Fait que s'ils en font beaucoup comme opposition,
le budget de recherche, si ça n'a pas changé, ça date de 2 ans ou 3 ans,
ouais.
C'est autour de 700 000 $.
C'est quand même un bon budget.
Pour un parti d'opposition
pour
dans une
recherche.
Mairie...
Hey, donne-nous 700 000 $ pour faire des recherches. On en a ouais, des scopes,
exact.
Nous autres.
Hey.
Et on vous le dirait pour vrai si Geneviève Guilbeault avait rencontré conservateur ou pas.
Parce
là.
Qu'on aurait acheté des caméras cachées.
Oh, on aurait acheté des politiciens à 700 000. Là, une coupe qu'on ramasse avec ça. Là.
Stéphanie Martin, moi, je l'aime bien. C'est une excellente journaliste du Journal de Québec. Elle écrit « Mercredi, le chef de l'opposition officielle à Québec estime que la ville doit serrer la vis aux propriétaires qui laissent dépérir leurs bâtisses dans le Vieux-Québec. » Et là, on commence à cibler des bâtisses, dont des bâtisses qui font partie du patrimoine, des bâtisses qui, à partir du moment où tu veux rénover ça, il faut que tu demandes constamment des permissions.
Très compliqué.
À la ville de Québec. Puis lui, Claude Villeneuve est très critique, puis dit, pas à la ville de s'améliorer pour ce qui est de l'octroi des permis, il dit, faut serrer la vis aux propriétaires qui laissent dépérir leurs bâtisses. Ça, là, puis les dates sont importantes. Mercredi 25 septembre, 15h36, c'est ce que Stéphanie Martin a écrit.
Oui.
Et là, jeudi, c'est aujourd'hui ça.
Oui.
Il y a un autre article qui est disponible dans le Journal de Québec où on est allé voir les propriétaires de ces dites verrues. Entre autres, un propriétaire d'un édifice à logement patrimonial. On parle des propriétaires du 4 à 8 rue Carlton, qui ont rénové leur édifice du Vieux-Québec, mais eux déplorent que leur aventure s'est transformée en véritable histoire d'horreur juste en raison des délais administratifs qui étaient hallucinants selon eux.
Il a fallu que des squatters mettent le feu dans le building pour que la ville accélère le processus puis donne des permis auxquels ils n'avaient pas accès. Puis ce qui est drôle, c'est que le building est rénové. Mais c'est patrimonial. Tu peux tellement rien faire que de l'extérieur, ça paraît pas que c'est rénové. Claude Villeneuve pensait qu'il y avait personne qui vivait là. C'est un dossier important à Québec. Puis je trouve que Claude Villeneuve, pour prendre une image de hockey, là, il est arrivé en avant du filet désert. Puis on a vu ça des fois, là, des kids qui veulent être fantastes puis qui se donnent un élan pour snapper à puck dans le filet désert alors que tu as juste à déposer. Là. Mais là, en voulant snapper dans le filet désert, Claude Villeneuve a snappé d'un strade puis il a manqué son but. Parce qu'il y a un point à faire avec ça. Il y a une administration qui complique tout à Québec. Il y a deux histoires d'administration compliquées ce matin impliquant la ville de Québec. Tu as Trudel qui veut bâtir un complexe dans le secteur Dorchester où tu as une mare puante à ciel ouvert depuis trop d'années qu'on appelle un parking.
Ouais.
Si tu veux scraper ton char, va te parquer là, tu vas avoir du fun.
Ça, c'est l'espace de stationnement en face du scanner.
Oui, oui, okay. Oui. Ça, là, si tu veux faire une trail de quatre roues là, ou de motocross, là, maudit beau spot. Pour ça, les bosses, les trous, c'est tout là.
Ben attention, tu te rappelles ce qui arrive avec la Marmota?
Oui, bien la Marmota, moi, je l'aurais mis là, tout est prêt. Là. Mais sérieusement, les Trudel sont prêts à couler le béton, puis... ils ont utilisé la même technique moderne de tenir eux-mêmes des consultations publiques pour accélérer l'acceptation d'un projet. Puis c'est ce qui fait en sorte que dans ce projet-là, il y a une épicerie, parce que c'est un besoin qui revient beaucoup pour les citoyens du Vieux-Québec et ainsi de suite. Puis eux autres disent... Nous autres, on est prêts à couler, là. Mais là, il faut attendre, parce qu'avant, il y avait une vieille usine de bottines, puis il faut faire des fouilles archéologiques d'un coup qu'on trouve une semelle. Bon, je vulgarise un peu, mais en gros, c'est ça le problème. Puis eux autres, ils disent, il y a deux moments dans l'année où ce qu'on peut couler du béton, c'est à l'automne puis au printemps. Puis là, si on repousse au printemps, ben début 2027, normalement, on arrivait avec le building fini. Finalement, ça va être plus tard. Les propriétaires qui rénovent un édifice patrimonial, ils disent « si c'était à refaire, on ne le referait pas. Ça a été un cauchemar. On a été dans le trou financier en attendant que la ville puis que le ministère finissent le game de ping-pong pour nous donner les permis pour rénover. » Claude Villeneuve aurait dû ramasser tout ça puis dire « Hey, pourquoi c'est compliqué de même? »
Ça fait des années en
passant. Aider le monde!
Moi, je prendre la part 2000... du payeur de taxes.
Oui!
Qu'est-ce qui s'est passé?
2011-2012, les gars, okay, ça jasait déjà à Québec puis c'était un problème qui était flagrant depuis une dizaine d'années. Comment ça fonctionne en plus, c'est que là, tu parles du béton, mettons, dans les saisons, mais reviens quand tu parles de trous financiers. Les Trudel sont capables d'avoir un certain impact sur leurs finances pendant un bout. Mais un contribuable comme vous et moi qui achète une maison patrimoniale, qui veut la revamper, puis qui, je vous le jure, il y a une consultation par mois environ, là, de ce que je m'étais fait dire. Ça veut dire que s'il faut faire approuver une partie de votre projet, mais mettons que c'est le 16 septembre, ils vont se rencontrer. Puis là, s'ils ne l'acceptent pas, puis vous pouvez faire les modifications en deux jours, là. Ça va aller au 16 octobre. Puis ça, c'est accepté le 16 octobre. Puis c'est toujours comme ça. Puis il y avait un évaluateur qui était attitré au dossier patrimonial dans le temps, je me rappelle de son nom, toute ma vie, je vais m'en souvenir, qui, lui, se faisait pointer du doigt par énormément de gens qui ne se connaissent pas, qui rénovaient des édifices ou des maisons patrimoniales, puis que c'était... ardu au point à rencontrer et dans la couleur. À un moment donné, il y avait un Pantone là, de couleurs, OK, mettons jaune ou jaune-jaune. Mm. Puis ça faisait pas, fallait un jaune-jaune-jaune. Mais ça, il n'y en avait pas chez Sico, par exemple. Fait que là, tu pouvais pas avancer. C'était dans des détails épouvantables comme ça. Puis les gens, c'est des milliers de dollars parce que pendant ce temps-là, ton hypothèque, t'as payé. Pendant ce temps-là, si c'est en décrépitude, faut quand même pas que tu le laisses aller parce qu'en plus, tu vas avoir une amende parce que tu laisses aller ton bâtiment. Fait que t'avais des amendes au travers.
Puis on dit que c'est un objectif de garder de la population dans le Vieux-Québec, ben essayer de leur simplifier la vie
pas
un petit peu.
Pas juste des Airbnb et tout, là.
Non, mais quand ils décident de ramasser des immeubles que on a une rafale de vent à 45 km/h puis tout sac le camp à terre, c'est bien beau le patrimoine, là. Mais c'est pas vrai que tous les édifices à logement du Vieux-Québec, c'est des reflets du patrimoine. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser.
Puis c'est quoi qu'ils préfèrent? Qu'ils soient démolis comme le château Richard du côté de Château-Richer? Pendant des années, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le rénover parce que, bon, la propriétaire voulait pas, puis là, c'est rendu édifice patrimonial, puis les choses avancent. Mais je regarde ça et je dis comment ils vont le rénover. C'est impossible de rénover ça. Là. Ça va tomber. C'est un château de cartes. Ça va être la même chose. C'est quoi l'avantage d'être aussi lent et administrativement négatif?
Mais dans tous les cas, dans tous les cas, c'est des manques de planification, c'est des manques d'organisation. Quand on se présente pour un dossier, on devrait être en mesure de régler 10, 12, 15 points pour permettre aux gens qui achètent de faire avancer leur projet. Même chose pour les développeurs au privé. La ville paralyse les gens qui veulent aller de l'avant pour rendre ça vivant le plus possible. C'est pas normal. De la lourdeur administrative à Québec, c'est pas normal. Je comprends qu'on n'est pas Sainte-Pétronée. Ils ont le problème, on va les laisser tranquilles. Mais on n'est pas Montréal non plus. On n'est pas New York. On n'est pas fucking Rome, là, tu sais.
La propriétaire de la dite verrue patrimoniale qui a été...
c'est beau comme expression,
qui a été passée dans le tordeur par Claude Villeneuve, dit oh, il y a eu énormément de va-et-vient avec la ville de Québec. La pandémie, ils ont mis ça sur le temps, là. La pandémie avait le dos large. La ville et le ministère se relançaient constamment la balle sur l'aspect de la rénovation pour maintenir les standards patrimoniaux. Juste les fenêtres, on parle d'un édifice de 4 logements, là. Juste les fenêtres, les portes qu'on a mis de l'époque ont coûté 150 000 $. Il a fallu du temps pour changer le zonage de zone commerciale à zone résidentielle. Elle trouve ça un peu ironique qu'elle se fasse ramasser par le chef de l'opposition officielle, qui aurait peut-être dû la contacter avant en disant « Mais pourquoi ça a été si long? » T'sais?
Et il aurait dû prendre le bord du citoyen. C'est un résident du cœur de Québec, hey, ça, Claude Villeneuve. Il connaît les dynamiques, les problèmes.
Ouais, on a une conférence de presse à faire. On a des demandes à faire à l'administration Marchand. Qu'est-ce qu'il fait en
en sorte que les verrues qui nous entourent, on s'en occupe pas, et ce, rapidement. Voici une propriétaire qui va témoigner de sa relation avec la Ville de Québec.
Ouais, ouais, ouais.
T'as l'impression que l'opposition est de ton bord en tant que contribuable.
Savez-vous quoi? Ouais. Quand t'as un sinistre dans une maison patrimoniale ou qui a été monté comme tel, juste la moulure que vous avez, là, OK, elle vaut 3-4 fois plus cher qu'à l'époque et que celles qui sont modernes. Mais les assurances, pour certaines, et donc la majorité, ne couvrent pas la valeur de cette dite moulure-là. Mais quand tu rénoves,
faut que tu fasses
la ville demande cette moulure-là. Fait qu'imaginez-vous comment il y a des gens qui se mettent aussi dans le trou après avoir vécu un sinistre, un genre d'incendie ou autre.
Mais y es-tu connecté avec la population? Il dit, moi, je pense, puis ça, je parle de Claude Villeneuve, chef de l'opposition, qui parlait des dites verrues. Il dit, moi, je pense qu'on devrait utiliser tous les pouvoirs qu'on a pour que les choses se passent le plus vite possible. Si ça veut dire tordre le bras à un promoteur, si ça veut dire à un promoteur, ben écoute, si tu veux pas le faire, le projet, ben faudra trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Si ça peut aller jusque-là, donc d'enlever cet immeuble-là à un propriétaire d'immeuble, c'est ce qu'il a dit, ça c'est dangereux un peu. Il dit, ben faudrait y aller dans la mesure des pouvoirs qu'on a.
C'est de sous-entendre que n'importe qui achète un édifice patrimonial veut jouer une guerre d'usure avec l'hôtel de ville en attendant que l'hôtel de ville se tanne ou que l'édifice tombe de par lui-même puis qu'il puisse reconstruire du neuf. C'est sous-entendre que tous ceux qui décident d'investir temps et argent dans le cœur du Vieux-Québec, ben c'est des gens malhonnêtes qui veulent contourner les règles. Le maire étant voyage, tu as un dossier en or où tu peux scorer top net. Il a pris son élan, il a snappé à rondelle, est parti d'un strade, est arrivé dans le front d'une madame. Pauvre Claude Villeneuve, manquer son coup de même. Tu planifierais une sortie malhabile que tu serais pas capable de passer à côté autant. Puis je suis un peu d'accord avec toi, ça me fait de la peine. Claude Villeneuve, c'est un bon yard, puis c'est bien le fun de parler avec. Mais prends le bord du citoyen, va te renseigner. Le travail que la journaliste a fait de parler au propriétaire, Claude Villeneuve aurait dû le faire, se faire raconter ce cauchemar-là, puis t'as raison, il aurait dû faire la conférence avec des citoyens puis des propriétaires qui seraient venus raconter que depuis 5-6 ans, eux autres, ils essayent d'avancer puis qu'ils sont pas capables.
T'sais. Je répète, le budget de recherche est de 700 000 $ puis ils ont erré à ce niveau-là. Je trouve ça juste hallucinant. Hey, autre dossier. Tes gars t'ont-tu demandé d'aller voir les matchs des Kings à Québec?
En fait, on y va.
Vous y allez?
C'est un cadeau. Oui, absolument. C'est les Kings cadeau... contre les Browns, cadeau de Noël.
Qui taillit à ce point-là?
Ça a coûté combien?
Peux-tu
vérifier les billets sont à combien présentement?
De mémoire, c'est-tu 70 ou 75 $ du billet ou je suis complètement dans le champ?
OK. C'est pas si cher que ça si c'était 70 à 75. Pascal,
je l'ai dedans,
ça fait trop longtemps, là, c'est Noël passé. Là.
Mais bref,
c'est toi qui as acheté ça.
Matchs, c'est des matchs qui seront subventionnés par le gouvernement du Québec. On avait intérêt à ce que la place soit foulée. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a eu 8000 sièges inoccupés à Québec et le gouvernement du Québec épongerait le déficit anticipé plus 20% des billets
en
vente qui n'ont pas trouvé preneur.
C'est dégueulasse, cette phrase-là. En plus de l'avoir payé pour qu'ils viennent en ce moment, un billet, c'est entre 55 et 154 $
OK. Fait que j'étais dans les ranges de prix. De mémoire, 75-80
Pourquoi on n'a pas foulé ça? Pourquoi la partie contre les Browns, c'est pas plein?
T'as-tu entendu ma théorie hier?
Pas du tout.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui décident de se pincer le nez puis de dire on va pas walker de la Ligue nationale parce que le gouvernement a mis des millions de dollars là-dedans puis ça les écarte.
Un genre de revendication
ouais,
politique?
Puis je l'ai entendu autour de moi. Puis okay. Quand j'ai acheté les billets pour le cadeau de Noël des enfants, moi, je le disais, j'ai comme un dilemme, tu sais. Parce que côté éthique, moi aussi, je trouve ça dégueulasse que le gouvernement mette des millions de dollars pour avoir des matchs hors concours des Kings de Los Angeles. Mais mes enfants, ils trippent sur le hockey. Puis mes enfants, voir du hockey de la Ligue nationale dans le cours, je trouve ça intéressant. Puis je veux leur faire plaisir. Fait que j'ai décidé d'être un père avant d'être un citoyen conséquent. Ça, c'est mon choix personnel, puis je l'assume à 200%. Mais je comprends les gens qui, dans ces circonstances-là, se disent « c'est pas un bon son de cloche d'encourager ce genre d'initiative-là ». Moi, c'est ma théorie à deux scènes. Pourquoi c'est pas plein pour les matchs hors saison? Habituellement, il y a un bon crowd, particulièrement quand c'est le Canadien, évidemment. Ouais. Les Kings contre les Bruins, logiquement, c'est un match qui devrait être sold out. C'est des prix qui sont, somme toute, raisonnables. Ouais. Peut-être que quand on va confirmer la venue de certains joueurs, ça va peut-être aider, il va peut-être avoir un boom pour la vente des billets. Mais je pense que la situation dans laquelle le gouvernement s'est placé, puis c'est devenu public, puis ça a fait le tour de la province, puis ainsi de suite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste décidé, ah, cette année, on va sauter un tour. Quand le Canadien venait, le gouvernement ne payait pas une scène.
Donc, Legault a accepté de mettre 5 à 7 millions sur la table sous forme de subvention. Le premier chèque est déjà encaissé par Vidéotron, donc Gestev, qui appartient à Vidéotron. On a donné 5 millions de dollars.
C'est trop cher aussi? T'sais, moi, je veux dire, vous le savez, j'essaie vraiment de m'intéresser au hockey. J'essaie fort.
Los Angeles, avec son club de la Ligue nationale, a engrangé des bénéfices de 108 millions US. Est-ce que c'est trop que...
Non, mais t'sais, on tripe-tu?
Non, mais je regarde, j'ai sorti des chiffres hier, puis c'est juste des petits rappels, mais à 18 millions de subventions, on a un grand prix, OK?
Hey.
À 9 millions de subventions fédérales, provinciales, on a la coupe du président de la PGA. Et à 8 millions, on a deux matchs hors concours des Kings de Los Angeles. Moi, rendu là, je vous laisse peser tout ça dans balance puis décider qu'est-ce qui vaut la peine puis qu'est-ce qui vaut moins la peine.
J'aime tellement ce que tu as fait comme exercice. Puis même pour le contribuable, si je pose la question, c'est-tu trop cher?
Ben,
sachant que tu as mis de l'argent de tes taxes et impôts déjà.
Le problème de ces enjeux-là, c'est que c'est teinté par notre fanatisme. Évidemment, l'amateur de golf va défendre la subvention à la PGA. L'amateur de hockey va défendre la subvention aux Kings de Los Angeles. C'est émotif. Puis c'est la même chose pour le Grand Prix de F1. Et l'inverse est aussi vrai. T'sais, tous ceux qui haïssent l'automobile et qui haïssent la F1, ils se gardent pendant la fin de semaine du Grand Prix pour dire à quel point c'est hallucinant qu'on donne de l'argent pour ça, puis c'est hallucinant que la mairesse permette la prostitution, puis ainsi de suite. Vous connaissez la game. C'est la même comptine à toutes les années. Mais si t'es contre les subventions pour des ligues professionnelles qui font des milliards de profits, même quand c'est ton sport à toi, normalement, t'es supposé d'être contre, si on veut être conséquent. Sans ça, on se parle entre fans, puis on verra jamais le bout de ça, là.
Puis c'est peut-être moi qui...
Moi, j'haïs ça, le golf, en passant, je suis contre la subvention.
Oui, mais c'est parce que c'est même pas les Canadiens. Moi, je suis là, je décroche même pas les Canadiens. Amène les Canadiens. Okay. Fait quelque chose de... Je sais pas.
C'est le 7 millions qu'on pourrait donner, là, on a donné 5 millions, là, mais le 7 millions qu'on pourrait donner, il va servir à quoi? Hein? Parce que Centre Vidéotron va vendre de l'alcool, là, ce soir-là.
Oui.
Je sais pas.
Cet argent-là va aller à Vidéotron?
Mm-hmm.
OK. Le 5 à 7 millions, il sert à quoi? Parce que les Los Angeles, ils viennent ici. Je veux dire, c'est leur avion. Là.
Puis après, ils ont dit qu'ils viendraient même gratuitement. C'est pas, on avait entendu ça là, quelques jours après. C'est gênant.
Ils dit même sans argent, il y aurait
été. Non, mais on est-tu niaiseux?
Cet argent-là va où? Elle va à qui? Elle est dépensée où?
Dans mon imaginaire, moi, je vois Luc Robitaille avec une valise avec 8 millions de dollars dedans, petite coupure, puis il fera bien ce qu'il veut avec ça, mais ils n'ont pas besoin de
ça.
Il
va la tanière, ça a l'air.
C'est ça, il va déplier. J'espère qu'il va amener l'équipe au complet.
Parce que, tu sais, ça va prendre du staff, mais t'as besoin du staff des remparts?
De ce que je comprends, ce qu'on veut nous présenter, ce qu'on veut nous expliquer, c'est que les Kings ne viennent pas seulement pour deux matchs et que cet investissement-là, entre d'énormes guillemets, ça fait en sorte que les Kings vont être disponibles, ça fait en sorte qu'ils vont avoir quelques activités on the side. On a commencé à annoncer des affaires. Exact.
Mais on s'en fout des Kings.
Ce genre d'initiative-là, les gens qui aiment les joueurs de hockey professionnels, sont contents. Ils sont contents d'aller voir les Kings de Los Angeles.
Mais c'est pas les Canadiens. Tu comprends-tu que je comprends? C'est comme si moi, Denis, là, j'investissais dans quelqu'un d'autre que Jean Leloup. Ah, m'a allé chercher quelqu'un français avant Jean Leloup. Mm-hmm. Bon, Jean Leloup, peut-être qu'il a besoin d'aide, je sais pas, moi, il est rendu où, mais
t'as un exemple. Chez sa mère.
Investi.
Pour vrai.
En lui, je comprends un peu plus, mais il y a quelqu'un qui nous dit 7 millions divisé par 18 000 places.
388.
Par siège.
Mm.
C'est après ça, on se demande qu'on n'a plus d'argent. Dans le mandat provincial, là, on n'a plus d'argent pour faire grand-chose.
Il n'y a rien de logique là-dedans. Si tu me poses la question de base...
On dirait Nordvolt pour moi.
c'est Nordvolt à l'année longue dans tous les dossiers au moment où on se parle.
Il y a même Joe Burrow au stade de l'Université Laval. Là. Mm. Puis je sais que ça a coûté 388 par contribuable. Je suis désolée, là. Je suis en désaccord avec ça.
C'est juste que tu vas aller le rejoindre à l'atelier après.
Bien, j'aimerais ça y parler. Mais c'est vraiment pour le sport. Puis ça serait pas... Oui, c'est ça.
Le gouvernement a investi dans ta dette.
Puis, sais, j'ai pas écouté la radio de Montréal aujourd'hui pour savoir de, si jaser de ce dossier-là, parce que des fois, je trouve ça intéressant de voir comme l'autre façon de réfléchir. C'est-tu un mauvais message qu'on envoie à la Ligue nationale? Moi, je pense que Gary Bettman se fout éperdument de nous, puis on n'aura jamais le retour des Nordiques à Québec, mais il y en a qui y rêvent encore, puis moi, j'ai du respect, vous avez le droit de rêver comme vous voulez, mais est-ce que c'est un mauvais message? On n'est pas capable de remplir l'amphithéâtre, là.
La réputation de Québec au niveau de l'amour du hockey, je pense que notre bout est fait amplement depuis des années et des années.
Rien.
Ça ne changera rien ni d'un bord ni de l'autre. Il y a eu un concours de circonstances qui a presque ramené les Nordiques à Québec dans les mêmes circonstances que les Jets sont revenus à Winnipeg, mais on sera toujours la fille la plus laide sur le coin du bord à 3h05 du matin quand le gars, appelons-le Max Larouche, n'a pas réussi à frencher encore. Puis à 3h05, quand il y a 6 bières dans le corps, soudainement, la fille la plus moche le devient un peu moins. On est ça pour la Ligue nationale de hockey. On est une piste d'atterrissage d'urgence pour un crash financier pour une des franchises qui existent déjà. On ne fera jamais partie d'une expansion. Pourquoi? Parce que le pari des Knights de Vegas a fonctionné. Ça a fait monter la valeur des franchises. Ça a fait renaître l'intérêt d'avoir une franchise de la Ligue nationale de hockey dans d'autres marchés américains où il n'y en avait rien à foutre. Mais là, ils ont vu que l'expérience Vegas, ça créait un petit buzz le fun, ça créait une communauté et surtout, ça générait des profits. Bien là, il y en a qui ont décidé de commencer à faire la file. Puis c'est pour ça qu'on s'en va du côté du Utah cette année avec un nouveau club de hockey. Tout le monde va passer en avant de Québec. Québec est une piste d'atterrissage d'urgence, puis on va toujours rester. C'était ça, mais l'amour du hockey dans n'importe quel forum d'amateurs de hockey à grandeur de l'Amérique du Nord, à grandeur de la Ligue nationale, tout le monde sait qu'à Québec, on tripe fort sur le hockey, puis qu'il y aille 15 000, 10 000, 12 000 ou 33 000 personnes à un match hors concours entre les Kings et les Bruins, ça ne change rien dans la balance.
Mais tu sais, Denis, quand tu es trop disponible, pour faire référence à Max Larouche qui va aller frencher, c'est ouais. Quand tu es trop disponible, ça ne vient pas attirant. Puis pour moi, Gary Bettman, qui voit à quel point que nous autres, on est prêts à payer autant cher pour quelque chose par notre gouvernement, par nos impôts, nos taxes. Écoute, je rirais dans ma barbe.
Ben, c'est parce qu'on n'a pas de l'air.
Pas, tu ris, tu cours,
on n'a pas de l'air d'un partenaire d'affaires, on a de l'air d'un quêteur.
Ben, c'est ça.
Au niveau juste politique, là.
Ben oui, puis pas juste d'un quêteur. On a l'air d'un mou.
Quand le ministre Éric Girard a un rendez-vous avec Gary Bettman, moi, je m'imagine Gary Bettman qui se mord les joues tout le long, là, puis qui le reçoit comme on reçoit un témoin de Jéhovah le dimanche.
Ben, on a. Il est 7 h du matin quand tu sonnes chez vous, c'est trop tôt, là. Mais on a la même opinion. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va être pris au sérieux, puis il va être disqualifié. Après ma barre, parce que justement, il n'aura pas été capable de se tenir. Mais puis toi, tu dis, je veux investir dans quelque chose qui est marketing et qui est une business d'abord et avant tout. Je ne pas faire affaire avec un partenaire d'affaires aussi mou et un peu vendu
mais,
de même.
Mais tu ne peux pas reprocher rien à l'amateur de hockey de Québec. Lui,
ça,
il aime le hockey d'amour.
Émotif.
Puis s'il décide de bouder cette entente-là, parce que le gouvernement s'en est mêlé puis qu'on a de l'air d'une gang de quêteux. Moi, je respecte le choix de l'amateur.
Oui, puis en passant, Pascal, ne jamais avoir de partenaire mou, c'est jamais.
Ça
donne jamais
c'est
de bon
fun, pareil.
Hey, on termine avec ça. Il reste à peu près une minute ou deux, Denis. Je voulais t'entendre là-dessus. Le premier ministre François Legault qui a dû parler de Nordvolt aujourd'hui. Ça n'a pas dû être facile. Il continue d'avoir espoir, c'est ce qu'il a dit. Par contre, nouveauté, il dit qu'il n'y a rien de sûr. Il mentionne que c'est la moyenne au bâton qu'il faut calculer à la fin et pas nécessairement. Le reste. Je regarde l'investissement. Là. Jusqu'à maintenant, on va se rafraîchir la mémoire. Là. Le gouvernement fédéral et provincial a annoncé des investissements de 7 milliards pour convaincre Nordvolt de s'établir ici au Québec. Il y a 700 millions qui ont déjà été investis par le Québec dans l'entreprise suédoise, soit 240 millions pour l'achat du terrain, les premiers 270 millions du gouvernement à la maison mère et un autre montant de 200 millions de la part de la Caisse de dépôt et de placement. Et il y a un autre 300 millions qui s'ajoute en capital action qui va être versé lorsque Nordvolt va avoir bouclé son financement au Québec et que la construction de l'usine sera commencée. Et lui, ce qu'il dit, ben écoutez, ce qui compte, c'est enfin, c'est la moyenne au bâton. Donc, il n'y a rien de sûr avec Nordvolt, il n'y a rien de sûr avec GM et il n'y a rien de sûr avec Ford.
Cette phrase de loser-là, utilisée par notre premier ministre, sais-tu qui l'utilise? Le gars qui est à machine à poker, là, qui vient de passer le fonds universitaire de ses enfants puis l'hypothèque de la maison, sa machine, là. Hein, il vient de voir le 50 000 partir, puis il se dit, Ouais, mais l'important, c'est la moyenne au bâton. Amène-moi un rum and coke, je vais rejouer, elle va payer.
Quand c'est un bâton de marde, comme vous avez dit cette semaine.
À la différence, c'est son argent, là. Ouais. François Legault, c'est pas son argent. Il semble carrément insensible aux deniers des Québécois.
C'est, il est, pour vrai, là, où il est désespéré au point de se dire, comme le gars devant le loto, la prochaine fois, je vais gagner. À force d'investir dans des projets du genre, puis d'en perdre, il est-tu rendu comme le gars devant sa machine à se dire, la prochaine, c'est la bonne?
Pendant ce temps-là, Fitz est en amour.
Ben oui, il est d'un chalet avec sa blonde sur le bord du lac, la vie est belle, sa moto est pas loin.
Sais-tu quoi? Il mérite quand même de frencher pour toutes les pierres qu'il a reçues.
Des fois, on m'appelle Jojo Medium, là, mais tu te souviens-tu...
Ça t'appelle de même, toi-même?
Ben moi-même. Tu te souviens-tu, quand il est parti, j'ai dit, c'est soi qui part... pour véritablement là, sa retraite et tout ça, ou soit il part parce que ça risque de virer mal dans les prochaines semaines, les prochains mois. Nordvol, c'est un bâton de marde.
30% de la raison de son départ, ça vient de l'économiste lui-même. 30% de la raison de son départ, c'est l'amour. Il reste 70%. Ça, c'est le train de Nordvolt qui est en train de sortir des rails et s'en aller dans le mur.
Boy. On va-tu s'en souvenir aux prochaines élections, Denis?
Je nous connais mieux que ça.
Je me souviens. Midi 34, vous avez les choses à nous dire. C'est le 88-971-101. On va faire une courte pause. Merci, Denis.
Salut.
On reprend ça demain, vendredi. Puis t'es pas avec nous autres lundi.
Non, lundi, je suis pas là.
Fait qu'on va se trouver un remplaçant. On va prendre qui? Max Larouche, mettons?
Mais à part égale, mettons. Ouais. Si on compare. Ouais, Max, ça peut faire. Je pense qu'il est un peu plus fort que Denis, par exemple.
Sur quel point?
À Denis de dire.
Ses connaissances tender.
La jeunesse.
Ouais, ouais.
Le French.
Mais dis-le, ouais.
On veut pas de preuves.
On revient.
Samedi et dimanche, boulevard